Radio Prague, les informations.
Restitution des biens de l'Église, le parti Affaires publiques reste divisé. Timoshenko explique avoir quitté l'Ukraine en raison de persécutions. Et puis une commission d'experts rejette les critiques de l'ONU sur les baby box. La direction du plus petit parti de la coalition gouvernementale Affaires publiques reste divisée sur la question de soutenir ou non le projet de restitution des biens aux églises tchèques. Un vote à bulletin secret au sein de la direction mardi matin s'est terminé par un match nul et le parti est censé se retrouver mardi soir pour régler le désaccord. Lundi, le parti civique démocrate ODS et le parti Top 09 ont refusé le projet du parti Affaires publiques, arguant que le refus d'Affaires publiques de soutenir le projet mettait en danger la crédibilité du gouvernement. Le parti Affaires publiques proposait un projet alternatif. Selon Affaires publiques, les moyens nécessaires pour la restitution des biens des églises pourraient être obtenus par la fusion de plusieurs ministères. La décision sur la restitution des biens des églises doit être prise par le gouvernement ce mercredi. Alexander Timoshenko, le mari de l'ancien premier ministre ukrainien Yulia Timoshenko, a obtenu l'asile politique en République tchèque à la fin de la semaine dernière. Il a déclaré avoir fui son pays pour échapper aux persécutions grandissantes dont il était l'objet. Dans une interview pour les émissions en ukrainien de Radio Liberty, Monsieur Timoshenko a fait savoir qu'il entendait combattre contre le régime du président Yanukovych depuis Prague et coordonner les activités de différents groupes d'exilés ukrainiens. Il y a un an, Prague avait déjà accordé l'asile à Bogdan Danishilin, ministre de l'économie dans le gouvernement de Madame Timoshenko, ce qui avait causé un conflit diplomatique entre les deux pays. Une commission d'experts a rejeté les critiques de l'ONU sur l'utilisation des baby box en République tchèque. La commission a été composée de représentants ministériels, de médecins et de députés, ainsi que de cours chargés de curatelle. Des curatelles, elle a estimé que ces boîtes recueillant les bébés non voulus n'étaient pas illégales. L'été dernier, une commission des Nations Unies avait estimé que ce système était en violation de la Convention des droits de l'enfant et que l'État tchèque ferait mieux de s'attaquer aux causes des abandons d'enfants. Plus de 60 nouveau-nés ont été ainsi laissés dans ces boîtes chauffées installées dans des hôpitaux depuis leur création en 2005. Selon une étude récente de l'agence STEM, seul un quart de la population tchèque est satisfaite de l'état de la démocratie dans le pays. Ce résultat est le plus bas de l'histoire du pays et accuse une baisse de 12 points par rapport à l'année précédente pour atteindre 26%. L'agence effectue cette étude depuis 20 ans. En 1997, déjà, une baisse similaire avait eu lieu. La satisfaction des Tchèques était tombée de 60 à environ 40%, taux qui était resté stable depuis. Plus des trois quarts des Tchèques estiment que la démocratie en République tchèque ne peut être comparée avec celle des pays d'Europe occidentale. Et puis à noter que c'est une production du théâtre de la rue Laura à Prague qui est sortie victorieuse d'une enquête de la revue Diva Dalni Novene. Elle a été qualifiée de production de l'année. Il s'agit de la mise en scène de la célèbre pièce de Paul Claudel, Partage de midi. La metteuse en scène Anna Burashova n'a pas reculé devant les difficultés de ce texte poétique et philosophique posé aux pose ce texte aux interprètes et a trouvé dans ce théâtre les comédiens capables de réaliser sa conception. On finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Bordana, le ciel en République tchèque sera presque clair et les températures maximales s'échelonneront de 1 à 5 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Paul Bauer.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci Anna Kubišta pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, pollution industrielle, circulation automobile, smog, la qualité de l'air dans le nord de la Moravie ne s'améliore pas. Le ministère de l'Environnement a décidé de subventionner un programme de lutte contre les sources de la pollution atmosphérique. Nous verrons cela en détail avec Václav Richter. Une exposition sur la destruction des églises et des lieux de culte en Bohême du Nord est présentée à la Bibliothèque nationale jusqu'au 21 janvier. Nous écouterons l'anthropologue des religions, Barbara Spalova. En deuxième partie d'émission, enfin, Alexis Rosenzweig nous emmène sur le terroir du vin de Mielnik, propriété de la famille Lobkowitz. Merci de rester avec nous et bonne écoute. La Moravie du Nord est une région qui étouffe pendant une partie de l'année sous le smog. Cette situation, qui frôle parfois la catastrophe écologique, est due à la pollution industrielle, à la circulation automobile, mais aussi à la fumée des cheminées des maisons individuelles. C'est cette dernière source de pollution qui est visée par un programme de subvention lancé par le ministère de l'Environnement en commun avec les autorités régionales. On écoute Václav Richter.
Durant la première étape, les subventions ne seront suffisantes que pour l'installation de 330 chaudières nouvelle génération. Les habitants de la région manifestent d'ores et déjà un grand intérêt pour le projet. Les demandeurs peuvent obtenir 60 000 couronnes, 2 400 euros, une somme qui représente environ les trois quarts du prix d'une nouvelle chaudière. L'adjoint au maire d'Ostrava, Dalibor Madej, rappelle qu'il s'agit là d'une initiative que la ville souhaitait mettre en place depuis longtemps.
Nous voulions faire deux choses. En premier lieu, assurer un contrôle efficace des chaudières parce que la loi rend la ville responsable des chaudières dans les maisons particulières et des petites sources de chaleur. Nous voulions également aider les gens de la région. Nous devons donc dire que le changement des chaudières à combustible solide est une avancée.
Les opinions sur l'efficacité de cette initiative divergent. Selon certains, elle pourrait réduire de 60 tonnes par an la quantité de poussière polluante dans l'air. D'autres spécialistes objectent que ces chaudières seront toujours alimentées avec des combustibles solides et n'apporteront pas d'amélioration significative à la situation environnementale. Dalibor Madej souligne cependant que chaque amélioration, même infime, est importante. Chaque mesure susceptible de réduire les émissions doit donc être appuyée. Son avis est plus ou moins partagé par Vendula Krčmářová de la section d'Ostrava de l'association écologique Arnika. Toutefois, Vendula Krčmářová aimerait aller encore plus loin.
Bien sûr, ce projet de subvention n'est pas centré que sur la ville d'Ostrava. Il s'agit de quelques 330 chaudières qui seront installées dans toute la région. Dans la première étape, les 330 chaudières ne pourront pas améliorer considérablement la qualité de l'air dans la région d'Ostrava parce que c'est une subvention pour l'ensemble de la région de Moravie-du-Nord, Silésie. Nous aimerions cependant aussi donner aux gens la possibilité de choisir entre les divers combustibles et d'installer dans leur maison, par exemple, des chaudières à biomasse.
Dalibor Madej estime néanmoins que pour plusieurs raisons, il sera assez difficile pour la population de la région de renoncer au charbon et de passer aux combustibles plus écologiques. Dans cette région minière, le charbon est le combustible traditionnel.
Dans certaines zones de la région, il n'est même pas possible d'installer le gaz. Je suppose donc que les gens continueront à se chauffer au charbon. Les nouvelles chaudières ont pourtant un grand avantage. Selon les conditions du ministère de l'Environnement, l'alimentation des nouvelles chaudières sera automatique. Il ne sera donc plus possible d'y brûler n'importe quoi. C'est donc un changement positif.
Vendula Krčmářová, elle, ne voit cependant pas pourquoi la vieille tradition de chauffer au charbon ne devrait pas être abandonnée. Bien qu'elle admette que jadis Ostrava était appelée « ville du charbon », elle pense que cette étiquette appartient désormais au passé. Au XIXe siècle, nous étions habitués à utiliser les lampes à pétrole et aujourd'hui, nous avons les ampoules électriques, constate-t-elle. Le ministère de l'Environnement considère cette première étape comme un projet pilote et envisage, en cas de succès, d'y investir d'autres sommes importantes.
En ce début d'année en République tchèque, les questions religieuses occupent le devant de la scène. Un nouveau cardinal tchèque vient d'être nommé et le débat sur les restitutions des biens de l'Église menace la stabilité gouvernementale. De son côté, la Bibliothèque nationale présente jusqu'au 21 janvier au Clementinum une exposition retraçant l'histoire de la destruction des lieux de culte dans le nord de la Bohême durant le communisme. Au micro de Radio Prague, l'anthropologue des religions Barbara Spalova revient sur le destin des églises dans cette région. Comment a évolué l'état des biens de l'église en Bohême du Nord depuis 1989 ?
Alors depuis 1989, donc il faut d'abord dire quel était l'état initial, parce que le Bohême du Nord était une région très catholique et assez riche aussi, donc il y avait vraiment beaucoup de bâtiments, beaucoup de cloîtres, beaucoup d'autres monuments de l'église.
Vous dites assez riche depuis jusqu'en 1945, c'est ça ?
Oui, voilà, après le transfert ou le Vertreibung des Allemands.
Oui, après l'expulsion ou le départ des Allemands de Bohême.
Voilà. Donc la nouvelle population tchèque, n'avait pas des moyens, même pas de bonne volonté d'entretenir tous ces monuments. Plus que, je n'ai pas de chiffres précises, mais évidemment plus que la moitié, même plus, je pense, a été complètement détruit. Donc, après 1989, tout ce qui était la propriété des ordres, donc des dominicains, par exemple des franciscains, ça s'est trouvé dans un état plutôt bien. Donc, les ordres, avec le soutien des réseaux internationaux, ont su réparer ces bâtiments.
D'accord, donc une rénovation des cloîtres dans la région.
Mais les églises de diocèse, ou bien les bâtiments qui appartenaient à la diocèse, c'est la diocèse de l'Étoile-Mérite, c'était plutôt difficile de les entretenir. Et même si on a déjà trouvé les moyens pour la rénovation, surtout avec l'aide des associations comme Kirche in Not, par exemple.
D'accord, des églises dans le nord, donc des associations allemandes.
Des associations surtout allemandes, oui, ou bien de l'Europe de l'Ouest. Donc même si ces bâtiments sont rénovés, ça ne veut pas dire toujours que c'est aussi la vie autour de ces églises qui est rénovée.
D'accord, donc on rénove les églises, mais il n'y a pas forcément de fréquentation de ces églises ou des lieux de culte, c'est ça?
Oui, ça dépend de la commune, bien sûr, de lieu. Il y a des églises qui sont considérées comme les lieux de pèlerinage. Donc là-bas, on peut parler d'une rénovation de la vie religieuse. Mais dans les autres places, souvent l'église est rénovée, mais il y a une, deux, trois messes par an. Et ce sont plutôt les citoyens de la commune qui organisent une fête communale et qui, donc dans le cadre de cette fête, invitent un prêtre à faire la messe dans l'église pour que l'église soit ouverte une, deux fois par l'année. C'est pas vraiment une motivation religieuse qui anime les bâtiments, mais c'est plutôt une rénovation de la vie communale qui, de temps en temps, prend les églises dans le jeu.
Et concernant le regard que les responsables ecclésiastiques, que les prêtres des paroisses, quel regard portent-ils sur le passé?
Ouais, on ne peut pas dire vraiment généralement, parce que aussi, il y a pas mal des prêtres polonais qui sont ici en mission. Il y a beaucoup de gens qui sont d'origine de la Moravie. Et très peu des gens qui sont d'origine d'ici, parce que les diocèses tchèques ont en général très peu des prêtres, et surtout les diocèses du nord ou bien des anciennes Sudètes. Donc leur vue sur la mémoire de la région, la région était bien développée pendant les Allemands qui étaient enracinés ici. Qui avait ici ses prêtres, ses racines pendant une centaine d'années, et qui étaient croyantes, évidemment, donc qui fréquentaient l'église, qui ont vécu quelque chose que les prêtres nomment la vie chrétienne, la vie commune chrétienne, traditionnelle, avec les autorités traditionnelles comme le maire, le prêtre, voilà. Donc c'était, on peut le résumer comme une belle époque de la région. Donc, à nous, c'est aujourd'hui de restaurer la région comme elle était avant la guerre.
Née Egli, Bettina Lobkowicz connaît bien la République tchèque où elle vit depuis plus de 20 ans entre Prague et Mělník. À son ancien mari Jiří, héritier de la famille Lobkowicz, elle a racheté il y a quelques années le domaine viticole de la ville de Mělník. Elle est au micro d'Alexis Rosenzweig pour cette nouvelle édition de Panorama.
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 Bettina Lobkowicz, bonjour. Est-ce qu'il faut un concours de circonstances pour qu'une citoyenne suisse s'occupe de vignes et fasse du vin en République tchèque, en Bohême?
Oui, je suis venue ici parce que je me suis mariée avec un Tchèque. Et donc, je ne savais pas qu'il était tchèque, mais finalement, J'ai découvert qu'il était tchèque et donc je suis venue en Tchéquie en 90. Et grâce à la privatisation ou à la restitution, dans le cas de la famille Lobkowitz, nous avons récupéré un domaine viticole, un domaine d'État. Et donc, je me suis occupée de ce domaine. Et ça fait 20 ans que je m'occupe de ce domaine.
Voilà. C'est donc à Mielnik, là où se rencontrent la Vltava et l'Elbe. Et vous avez aujourd'hui plusieurs employés et un domaine assez important avec également des vins et de blancs qui portent votre nom aujourd'hui.
J'ai repris un domaine très important avec 75 employés. Nous sommes aujourd'hui 15. domaine d'État avec une structure assez importante. Et donc, il fallait changer ça et en faire un domaine familial. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Le mousseux qui porte mon nom, c'est dû au fait que je vis un divorce pas facile. Et donc, pour ne pas me faire attaquer par mon ex-mari, usurpant le nom traditionnel du mousseux de Mielnik, j'ai décidé de lui donner mon nom pour ne pas avoir de problème légal.
C'était quoi la Tchécoslovaquie avant pour vous? Je sais que je crois savoir que vous aviez eu comme professeur à l'université de Zangalen Otachik, qui avait immigré après l'écrasement du printemps de Prague. Est-ce que c'est un des premiers contacts ou une des premières prises de conscience de ce qui s'était passé, de ce qui était en train de se passer?
Non, mon premier contact avec ce pays était 68. J'avais 10 ans et je me souviens, ma mère voulait qu'on garde une minute de silence pour la Tchécoslovaquie. Et comme petite fille, pour moi, qui aimait bien papoter, c'était assez difficile. Donc elle nous a expliqué pourquoi, ce qui était en train de se passer dans ce pays. Et en plus, à l'époque, nous avons toujours eu en été des ressortissants de l'Allemagne de l'Est qui passaient six semaines en Suisse. Et donc, on connaissait les circonstances dans les pays communistes. Et donc, on était consciente qu'en Europe, il y avait des pays où les gens vivaient d'une manière complètement différente de ce que nous, on connaissait. Donc, c'était en 68. Mais bien sûr, Otachik nous a sensibilisés pour les différents systèmes communistes, qui n'avaient pas un système communiste, qu'il y avait différents modèles. Et c'est grâce à Otachik que, bien sûr, j'ai appris énormément sur le printemps de Prague et le système tchécoslovaque.
Vous avez pu voir avec votre mari, Jiří Lobkowicz, vous avez vécu donc le retour de cette noblesse tchèque après la chute du communisme. Est-ce que c'était quelque chose de conflictuel, d'intéressant, j'imagine.
Ça, c'est un problème que vous trouvez ici dans cette société. Vous avez des gens qui sont restés, il y a des gens qui ont décidé de rester, il y a des gens qui sont restés sans prendre de décision, il y a des gens qui sont partis. Et il y a pas mal de gens qui sont restés, qui n'apprécient pas trop les gens qui sont partis, qui croient que les gens qui sont partis, qu'ils avaient une vie plus facile, que c'était plus difficile de vivre ici, de vivre dans le communisme. Et je pense que ces gens-là, ils connaissent pas les difficultés qu'il y a si vous devez quitter votre pays. Et à l'époque, ils ne savaient pas s'ils pouvaient revenir ou pas. Donc mon beau-père, il est revenu après 48, il est revenu pour la première fois en 90. Et en plus, dans le cas de mon beau-père, je me suis rendu compte qu'il a vécu pendant des années en Suisse et il rêvait toujours de sa patrie, de son pays, qui était la Tchécoslovaquie ou la Bohême. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'en fait, son pays n'existait plus. Et je crois que ça, c'était assez difficile pour lui. Parce que finalement, il aimait bien l'idée qu'il y avait la patrie quelque part. Et finalement, il s'est rendu compte que non. Donc, vous avez ce phénomène dans la société en général et la même chose dans ces quelques familles. Donc, les uns qui sont restés, ils pensent que ceux qui sont partis, ils ont eu plus de possibilités que eux qui sont restés.
Est-ce que vous avez un vin qui est peut-être un des vôtres, mais un vin qui vient de République tchèque, de Moravie ou de Bohême, que vous trouvez très bon pour avoir un aperçu de la bonne qualité de ce qui peut être fait sur le territoire de la République tchèque?
Moi, je pense que le cépage du Veltlínské zelení est très, très intéressant. Et pour le vin rouge, je pense le Svatovavžinecké, le Saint-Laurent. C'est un cépage qui est intéressant aussi, que vous ne trouvez pas ailleurs. Le Veltlínské zelení, c'est un vin léger qui va très bien avec les plats d'ici. Et le Svatovavžinecké aussi.
Merci Alexis Rosenzweig pour ce reportage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir.